Mes salutations fraternelles dans la personne du Seigneur Jésus-Christ en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et oui, hein, on se retrouve encore à Noël d'ici peu et on raconte toujours la même histoire. Le temps passe vite et c'est une réalité que Tempus fugit. Oh, mes lunettes. Et il fugit vite le temps, en effet. J'espère que vous avez eu une semaine bénie à travers toutes les occupations qui nous gardent dans cette période particulière, hein, de préparatifs et autres. Nous allons faire un arrêt dans notre méditation de l'Apocalypse, un arrêt de quelques semaines, en fait, on va y revenir au début février. Je dois prêcher deux fois en décembre, une fois en janvier, et en février, en revenant, nous reprendrons notre série sur l'Apocalypse. Pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse place, pendant toute cette période dite de l'Avent, au grand mystère de l'Incarnation. Je dis bien le grand mystère de l'Incarnation, parce que ça en est un. Même Colossiens, chapitre 1, versets 26 et 27, nous dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, pardon, parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Le grand mystère, le mystère par excellence de l'Incarnation. Un mystérion, vous savez, ce n'est pas quelque chose de caché, comme on s'apportait à le croire. Quand on dit quelque chose de mystérieux de nos jours, on veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut saisir, c'est quelque chose qui ne nous est pas abordable. Ce n'est pas la notion de mystérion dans l'Écriture sainte. Le mystérion, on en a déjà parlé le mercredi, si je ne m'abuse, c'est une façon de révéler des vérités, mais de les révéler de manière progressive. Elles ne nous arrivent pas d'une clarté cristalline tout d'un coup, mais c'est fait et progressivement, on voit la réalisation qui s'opère et c'est précisément ce qui se passe avec ce grand mystère de l'Incarnation. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement caché, mais qui est révélé en partie, qui est révélé partiellement et qui va s'accomplir. Alors, c'est certainement le cas de l'Incarnation. Et nous avons des indices de cela tout au long de l'Ancien Testament. On dit toujours que pour comprendre l'Ancien Testament, on n'a pas trop à se compliquer la tête, hein? Quel est le thème de l'Ancien Testament, sinon le Christ? On voit Christ partout dans l'Ancien Testament, et voilà, alors c'est le grand mystère de l'Incarnation qui progressivement vient en lumière. On reviendra à l'Apocalypse, je me le disais tantôt, en février. Il m'a paru bon de faire cette pause en raison du concept. Je dis bien, il m'a paru bon de faire cette pause en raison du contexte académique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Il fut un temps où nous suivions, non pas d'une manière servile, mais on suivait quand même assez fidèlement ce que nous appelions, et ce qu'on appelle encore, le calendrier liturgique. Et je pense que c'était une bonne façon de faire. Ça nous permettait de passer en révision tous les grands pans de la rédemption. Rien ne nous échappait, hein? C'est une très bonne habitude, je pense que jusqu'à un certain point, on a perdu. Et lorsqu'on arrivait au dimanche de l'Avent, au temps de l'Avent, les quatre dimanches précédant la fête de Noël, on n'en avait que pour la nativité, l'incarnation du Fils de Dieu. Dans mon lac Saint-Jean natal, comme j'aime à dire, que j'étais petit, dans l'église où j'étais, l'église catholique où j'étais, dans le coin droit, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas d'iPad, on n'avait pas d'image, en quelque sorte, hein? C'était tout ce qui était lumineux, tout ce qui était image était absolument fascinant pour nous. On avait une énorme de crèche, pratiquement grosseur nature. Et tout le monde était là, vous savez. Il y avait bien sûr Joseph, Marie, le bœuf, l'âne, les bergers, les moutons, les mages, tout le monde dans le même 5 à 7. Il ne manquait qu'un personnage finalement, c'était le Seigneur Jésus lui-même, qu'on plaçait dans la crèche, dans la mangeoire, le soir même de la messe de minuit. Mais imaginez-vous un peu La notion d'attente qui était la nôtre, hein? On allait à l'église tout le mois de décembre faisant, et la crèche était vide, mais il y avait tout ce monde-là en préparation qui nous rappelait ce qui s'en venait. On savait comment attendre, on savait comment se préparer pour la grande fête de Noël. On ne s'y ruait pas, on la préparait correctement et on la célébrait, à mon avis, dignement. Mon message d'aujourd'hui, c'est l'histoire de la venue de Jésus. En fait, c'est plus précisément l'historique de la venue du Seigneur Jésus que nous retrouvons en Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Je disais à Dave tout à l'heure, c'est pas toujours simple pour les pasteurs d'arriver dans des périodes comme Noël et comme Pâques, parce que hein, on en arrive, on a prêché des messages pendant des années et des années. On reprêche à peu de choses près les mêmes textes, on veut leur faire dire quelque chose de nouveau, mais c'est pas toujours simple non plus. Mais pour aujourd'hui, j'ai pensé nous faire simplement l'historique de la venue du Seigneur Jésus-Christ avec cette lecture-là, donc, de Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 17. Oh! Lecture de la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pérets et Zara. Pérets engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Assa. Assa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Jésus-Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Si vous avez coutume, j'espère que vous avez coutume, de lire une portion d'Écriture pour démarrer votre journée et que vous tombez sur celle-là, un lundi matin, vous partez pas au travail très, très excité. Hein? Ce n'est pas nécessairement le genre de verset qui vient nous chercher au tréfonds des entrailles là. Hein? Ça, c'est plutôt une généalogie et voilà, on s'en limite à peu près à cela. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'après 400 ans de silence. Depuis Malachie, Dieu s'est tu, si vous me passez l'expression. Après 400 ans de silence depuis ce prophète-là, le Nouveau Testament s'ouvre sur une généalogie. On se serait attendu à quelque chose peut-être de plus spectaculaire, mais non, il s'ouvre sur une généalogie et nous sommes, qui plus est, dans un monde très différent du précédent, très différent de celui qu'on a laissé avec Malachie dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous que lorsque l'Ancien Testament se termine, nous sommes sous le régime des Mèdes et des Perses. Hein? Et on est sous quel régime ici? On est sous quel empire ici dans le Nouveau Testament qui s'ouvre? Sous le régime de l'Empire romain. Et entre les deux, il y a eu l'Empire grec, dont il n'a pas été question, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau, vous voyez. Alors, il s'en est passé des choses depuis Malachie. Au fait de comparaison, c'est un peu comme si on racontait l'histoire du Québec. Et qu'on passait directement de Champlain, Champlain a fondé Québec en 1608, n'est-ce pas? Et qu'on arrivait directement aujourd'hui, il y aurait tout un écart. Il s'en est passé des choses. La culture a changé, tout a changé, hein? C'est très, très différent. Ben, c'est un petit peu ce qui nous arrive ici lorsqu'on fait ce grand pas-là de Malachie à Matthieu. Il faut cependant se rappeler que nous ne sommes pas ici devant une parole d'homme, mais devant celle de Dieu, devant sa parole inspirée par son Saint-Esprit. Nous sommes ici devant l'accomplissement de cette promesse-là, ayant cours depuis la nuit des temps, la promesse, bien sûr, de l'avenue d'un sauveur. Et à l'époque, les généalogies occupaient une place de toute première importance. C'était absolument primordial que de figurer dans les généalogies. Soulignons l'embarras d'ailleurs du roi Hérode, qui, comme plusieurs de l'époque, n'était pas nécessairement l'être le plus... qui avait fait son cheminement le plus honnête qui pouvait être là. On sait qu'Hérode était mi-juif et mi-édomite, de sorte qu'il ne figurait pas dans les généalogies. Mais étant Hérode, il a réglé le problème assez rapidement. Il a fait détruire les généalogies pour être sûr que personne ne viendrait pour se revendiquer d'une généalogie qui serait supérieure à la sienne. Alors, ce récit biblique-là que nous avons ici, de la naissance du Christ, répond à toutes les questions que nous pourrions avoir. Quelles sont ces questions-là? La première question, c'est « comment ?» La deuxième question, c'est « pourquoi ?» La troisième question, c'est « où ?» La quatrième question, c'est « comment ?» Et finalement, la principale question, c'est « qui ?» Ben, le texte de l'Évangile répond à toutes ces questions-là d'une manière très, très claire. Le comment, c'est simple, c'est par une intervention directe du Saint-Esprit qu'une Vierge a conçue. Hein? On l'avait déjà à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Le pourquoi, c'est pour amener à son stage final le plan divin de rédemption. Le où et le quand, d'un même souffle, si vous voulez, c'est à Bethléem en Judée, pendant le règne d'Hérode le Grand, alors que Quirinius était gouverneur de Syrie, et il va sans dire que l'Évangile porte tout son intérêt sur le qui. Qui est celui qui est né après tant de préparation et de présage? Si on veut saisir le sens d'un événement, il est impératif de connaître l'identité des personnages en question. Et ici, il s'agit bien sûr de Jésus. Alors, le texte présente une Vierge qui devient enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On l'a lu tout à l'heure dans la convocation. On voit un ange qui empêche un jeune homme de rejeter cette même jeune femme, toujours dans le même texte, n'est-ce pas? Plus tard, un ange vient et choisit le nom de l'enfant et il déclare finalement qu'il sera le Sauveur, et on pourrait continuer encore à l'infini. Ce serait un récit incompréhensible si nous ne connaissions pas l'identité de l'enfant. C'est une question que les gens, d'ailleurs, tout au long de l'Évangile, se sont posées. Qui est cet homme? Qui est celui-ci? Les disciples dans une barque, menacés de noyade. On s'en souviendra, Jésus les avait fait monter à bord, ils se sentaient assez en sécurité, et voilà que la tempête se déclenche, n'est-ce pas, mais une tempête pour adultes, dirait-on. Ils désespéraient même de sauver leur vie, réveillent Jésus qui dormait à la poupe, Jésus qui se lève, qui parle au vent, qui parle à la tempête, et le calme revient. Pour nous, c'est le miracle qui nous arrête d'abord, mais il y a plus grand que le miracle. D'où vient ce miracle-là, vous voyez? Et en Matthieu, chapitre 8, verset 27, il nous est dit, « Les hommes dans la barque, ces hommes furent saisis d'étonnement. » T'es mort de peur avant? Là, ils sont saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci? » Voilà. C'est qui ce personnage-là? « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » En Luc 7, 49, Jésus prononce le pardon des péchés de cette femme qui lui avait oint les pieds. Et nous disons, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, « Qui est celui-ci? » Encore la même question. Qui est-il? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Le vendredi saint, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, on se souvient de l'accueil que Jésus a reçu. Il n'arrive pas à Jérusalem comme un soldat armé jusqu'aux dents sur un cheval, n'est-ce pas? Non! Il entre paisiblement sur le dos, sur la monture d'un âne, comme un prophète, ce qu'il était d'ailleurs. Et les gens jettent leurs vêtements devant lui, on met des branches de rameaux, etc., etc. Et il reçoit un très, très bel accueil. Et nous lisons dans Matthieu 21, 9 à 10, « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci? » Voyez-vous? On est toujours face à la même question. Qui est celui-ci? Et on pourra en ajouter bien d'autres encore. Ça m'amène à mon premier point, parce que nous étions encore dans l'introduction. Mon premier point, c'est Jésus le Sauveur. Dans son introduction à Jésus, Matthieu nous révèle rapidement des noms et des titres. Ce ne sont pas des généalogies exhaustives qui sont là. On n'a pas tout le monde dans la lignée de Jésus. Ce ne sont pas des généalogies exhaustives, mais elles ont été soigneusement sélectionnées pour faire ressortir trois noms. D'abord Abraham au verset 2, ensuite David au verset 6 et Jésus au verset 16. Abraham et David avaient effectivement reçu des promesses. Les promesses qu'ils étaient porteurs de la lignée du Messie, de sorte que nous sommes ici en mode accomplissement de ces promesses-là. Jésus est fils d'Abraham. Abraham, c'est l'espoir des gentils, c'est l'espoir des juifs. Il est fils de David, donc le grand roi des juifs, David, le roi par excellence. Et Jésus est le Christ, c'est-à-dire qu'il est le oint de Dieu pour une tâche cruciale. Mais d'abord et avant tout, il est, selon ce que l'Évangile nous en dit, Jésus le Sauveur. Et son salut va bien au-delà de toute restauration physique. Comme le mentionne d'ailleurs le psaume 130, versets 7 et 8, où nous lisons, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui. En abondance, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. » Et bien sûr, ce programme salvateur reposait précisément sur Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus fait dans son incarnation? Bien, dans un premier temps, il commence par s'attaquer à la racine des peines et des chagrins. C'était sa tâche. C'était le rôle du Sauveur. Il est venu pour sauver son peuple de son péché. Et on le voit très clairement dans sa généalogie. Alors qu'il est le descendant de plusieurs rois juifs. Dans ce qu'on a lu, dans cette généalogie-là de Matthieu 1, Matthieu mentionne 15 rois de David, à Jéconias. Et on peut donc dire que Jésus vient d'une noble lignée. 15 rois dans sa généalogie, sauf que ce n'est pas toujours aussi glorieux qu'il y paraît a priori. La moitié de ces rois-là étaient des gens de foi. Ce n'étaient pas des gens parfaits, mais c'étaient des gens de foi qui, malgré tout, étaient loin de la perfection. On n'a qu'à penser à David et compagnie et leurs nombreux péchés. C'est intéressant de noter, dans un premier temps, dans cette péricope, le nombre de parents pieux qui ont eu des enfants impies. Les noms de Roboam, Joram, fils de Josaphat, Amon, Jéconias, fils de Josias, ils ont eu de bons parents, enfin des parents croyants, des parents qui marchaient selon la loi de Dieu, mais ils ont eu des enfants immensément impies qui ont rejeté l'Éternel. Ils ont eu des enfants mauvais. Et bien sûr, c'est toujours la même leçon que l'on tire. La grâce ne se transmet pas génétiquement. La grâce exige également beaucoup plus qu'un bon exemple, que de bons exemples et que de bons enseignements. Comme on dit souvent, Dieu n'a pas de petits-enfants, vous savez. Il n'a que des enfants, et pour faire un enfant de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Ce qui ne nous dispense aucunement de notre responsabilité que Dieu va utiliser lorsque les enfants se pointent. Amen. De les élever dans ses voies, d'être de bons exemples pour eux, de les enseigner. Mais c'est toujours, comme dit l'apôtre Paul, « Moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, voyez. Nous ne sommes rien comme serviteurs, sinon de faibles outils que Dieu a bien condescendu à vouloir utiliser dans sa grâce. » Ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de la chair ni du sang, non plus que de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À quel point cette réalité doit nous amener comme parents à prier pour le salut de nos enfants, pour que Dieu les fasse naître de l'Esprit, et pour qu'il les fasse grandir dans ses voies, pour qu'il leur donne une route toute tracée, qui vont le conduire à l'éternité. L'autre moitié des rois qui nous sont mentionnés ici, elle était carrément mauvaise. Bon, que dire d'Akaz, qui adorait de faux dieux, Akaz qui a même offert des sacrifices humains. On peut en citer d'autres aussi comme Manassé. Écoutez, 2 Rois, chapitre 21, verset 11, nous dit ceci de Manassé. « Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avait fait avant lui les Amoréens. » C'est pas petit, cela. Non, non seulement il fait pire que les autres rois juifs avant lui, mais pire que les Amoréens, qui étaient des païens, vous voyez. Et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Donc, aussi royal pouvait être la lignée de Jésus. Il ne peut pas se balader en disant, moi mon ancêtre, c'est pour mon ancêtre, c'est. Aussi royal, donc, pouvait être la lignée de Jésus. Jésus est loin d'être venu pour lui rendre hommage. Il est venu pour la sauver. J'aimerais par ailleurs attirer notre attention sur les femmes qui figurent dans cette généalogie et qui sont liées en quelque part à des rois. Nous avons au verset 3 Tamar. Tamar, puis au verset 5 et 6, nous lisons « Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. » Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, de qui? De la femme d'Uri. Tamar, c'était la belle-fille de Juda, fils de Jacob. Bon, c'est ce qui, on connaît un petit peu l'histoire. Elle a joué le rôle d'une prostituée, enfin, elle a tellement joué le rôle qu'elle tombe enceinte, de son beau-père, au verset 38, au Genèse 38. Rahab, c'est la prostituée de Jéricho qui est venue en aide aux espions d'Israël. Josué, chapitre 2. Ruth était Moabite. Moabite et Israël n'ont pas invité au même party de Noël. Ce n'étaient pas des nations amies. Alors, Ruth était Moabite et a été adoptée dans la famille de Boaz. Dans le livre de Ruth, on le voit. Et Bathsheba, la maîtresse de David, c'était la femme d'Uri, comme nous le rapporte 2 Samuel. Dans ce quoi tu mords? Il y en a 3 qui viennent de terre ou de familles étrangères, qui viennent hors de la famille de Dieu. Et de ces 4, 3 étaient des prostituées ou des adultères. Et la 5e, c'est Marie. Chère Marie. Qui n'a aucune prétention, sinon celle d'avoir besoin d'un sauveur. Elle devait être perdue lorsqu'on a besoin d'un sauveur. Et Marie de dire, Luc 1, 46, 48, « Mon âme exalte l'Éternel. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Vous savez, on pourrait tous faire le même genre d'exercice, le même constat, en étudiant notre arbre généalogique. Je me vante souvent auprès des gens que je descends des Huguenots. Et des fois, je fais une liaison malte à propos, comme on dit, je dis des Huguenots. Hein? Parce que je descends de Daniel Suire Perron, du 17e siècle. C'était un Huguenot. J'ai dit une fois à mes frères, moi, je suis de retour dans la religion de mes pères, vous voyez. Alors, ça sonne bien. Sauf que quand on regarde les papiers, vous savez, les formules, c'est moins glorieux un peu. Daniel Suire était né hors des liens du mariage. Bon, c'est un Huguenot, mais hors des liens du mariage. Il est venu ici au Québec, il a épousé Louise, son épouse, Louise Gargotin, en fait, qu'il a épousé. Mais comme le Québec, à l'époque, c'était pas l'endroit par excellence pour les protestants et pour les Huguenots, on voulait vraiment faire une province catholique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Daniel Suire et sa femme, ils ont juré et sont devenus catholiques. Oui, c'est ma généalogie. Alors, j'en suis très fier au départ, mais quand on regarde plus loin, ben, il y a ces carences. J'ai remarqué que les gens qui viennent de nous vont pouvoir faire les mêmes constats également un petit peu plus tard, un peu plus loin, voir à quel point nous aussi, nous sommes des gens carencés, parce que nous sommes tous des pécheurs. Quels que soient les titres, quelles que soient les richesses, quelles que soient les positions qui aient pu occuper nos ancêtres, nous sommes tous dans le même besoin d'être sauvés. L'importance de cette réalité que Jésus descendait de ces gens-là, mais n'était pas de leur chair. On parle donc de descendance, mais non d'hérédité. C'est un peu complexe, hein? Parce qu'il a quand même été formé dans le sein de Marie, il a quand même été formé comme un être humain, hein? Mais la semence de Joseph n'était pas dans le décor, je ne sais pas comment ça marche médicalement, peut-être que quelqu'un pourrait nous en donner une explication subtile, mais une chose est certaine, c'est qu'on parle de descendance et non pas d'hérédité. La chair humaine ne peut d'aucune façon délivrer le peuple de Dieu. La conception surnaturelle de Jésus est un incontournable. Et ça m'amène à mon deuxième point, Christ le oint. Ce même Jésus a aussi reçu un titre qui est devenu son deuxième nom. Des fois, on dit le Christ. On veut dire le oint. Des fois, on dit Christ, comme si c'était son prénom. Hein? Christ, le nom signifie bien sûr, hein, Christos veut dire oint. On sait qu'en Israël, on oignait les prêtres, on oignait les rois, et la plupart du temps, on oignait aussi les prophètes, on oignait les trois offices d'Israël. Cependant, on sait que les Juifs attendaient un Messie roi terrestre qui viendrait les délivrer des Romains et de leur redonner aux Juifs une préséance. Matthieu nous révèle cependant que l'onction de Jésus se voulait pour une victoire infiniment plus grande, qu'il allait incarner les trois offices de leadership d'Israël. Il a reçu l'onction royale, bien sûr, pour vaincre nos grands ennemis, la mort et le péché. Et de par son onction sacerdotale, il s'offre lui-même en sacrifice, parce que la chair des bœufs et des moutons ne pouvait purifier la conscience. Il s'offre en sacrifice pour effacer la culpabilité de notre péché. Et à titre de prophète, il nous révèle à la fois qui nous sommes et qui il est. Les deux sont impératifs. Savoir qui nous sommes et qui Dieu est. Il est celui qui nous révèle Dieu. Vous connaissez probablement ce très beau passage dans Jean, chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Qui l'a fait connaître. Ça, c'est un bon verbe. Exégéomai. Ça vous intéresse, ceux qui ont fait du grec ici, là. Exégéomai. Ça donnait en français? Exégèse. Christ est venu faire l'exégèse de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'exégèse d'un texte? On l'explique de long en large. On le rend tout à fait accessible. Mais c'est précisément ce que le Christ a fait. Et c'est bien traduit. Il nous l'a fait connaître. Christ a fait l'exégèse de Dieu pour nous. Il a été notre interprète. Il nous a expliqué la majestueuse personne de Dieu. Et c'est certainement une bonne raison pour laquelle on l'appelle la parole. Le Logos, hein? Le Logos. Maintenant, lorsque les gens de son temps se sont rendus compte que Jésus ne les délivrait pas selon leurs attentes, là, hein, on se débarrasse des Romains et on passe à autre chose, ils ont alors ajusté leurs attentes. Et ça, bien aimé, c'est le problème de l'humanité. On les regarde puis on dit « ils n'ont rien compris ». Voilà, comme nous. L'humanité n'a strictement rien compris. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien compris? Parce que le Christ n'est pas venu pour leur offrir un royaume du monde. Il est venu pour leur offrir le royaume de Dieu. Théologie des deux royaumes, bien-aimés. Il n'est pas venu leur offrir cette petite vie cosy, cette petite vie facile. On se débarrasse des ennemis, vous êtes dans votre petit carrosse, je pousse derrière, sur un beau sentier, des papillons qui virevolent. Non. Il est venu pour nous offrir un royaume dans lequel on a encore à lutter et à combattre. Mais il est venu pour nous offrir le royaume de Dieu, même si nous sommes encore dans le royaume du monde. Ce que les Juifs voulaient, ce que le monde veut, c'est quoi? Le royaume du monde. On veut se rebâtir un paradis terrestre en oubliant que dans chaque recoin du paradis terrestre, il y a toujours un serpent. Oui. Et le monde va de serpent en serpent, et le monde va de déception en déception, parce que le royaume du monde ne peut pas livrer la marchandise. Lorsqu'on évangélise et que les gens sont soit indifférents ou réagissent violemment, c'est parce qu'on leur offre un royaume terrestre. Hein? Un jour, lorsqu'on a démarré CFOI, notre poste de radio à Québec, Diane et moi, j'avais reçu un appel téléphonique d'une dame qui voulait nous parler, parce que je ferai toujours, si vous voulez qu'on vous rende visite, ça va nous faire un grand plaisir. Et cette dame nous avait contacté. Diane et moi, on était allés pour lui rendre visite. Et que, je dois te souvenir de ça, maman, que, la seule question qui l'a préoccupée, mais est-ce que Philippe va revenir? Ah, ça, c'était son chum qui avait levé les feux. Vous voyez, si je viens au Christ, est-ce que Philippe va revenir? Ben là, on lui dit, ben là, ça va dépendre de Dieu. Hein? Dieu sait ce que vous... Mais il était toujours de retour à Philippe. Finalement, c'était une soirée à vue humaine un peu perdue, parce qu'il n'y a rien d'autre qui a passé sinon que l'histoire de Philippe. Mais le monde est comme ça. Le monde veut Christ, mais dans la mesure où c'est le petit Christ que nous avons sur une médaille ou sur un crucifix qui nous obéit, sinon on le met en punition, vous voyez. Les Juifs n'ont pas reçu le Christ parce qu'il ne leur offrait pas le royaume du monde. Ça a l'air de rien, hein? Mais même pour nous chrétiens, le royaume du monde prend encore pas mal de place dans nos vies, vous savez. On a souvent qu'à figurer l'attente de nos payes et ce qu'on projette de faire avec, hein, nos projets de toutes sortes. Le royaume du monde occupe encore beaucoup de place dans nos vies. C'est pas vilain. Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. On commencera pas à devenir des espèces de je ne sais trop quoi. Non. Mais en même temps que le royaume de Dieu, le royaume du Christ doit demeurer vraiment primordial et premier dans nos vies. On l'a vu avec Israël, ça, dans ses alliances avec l'Égypte, avec la Syrie et avec d'autres. Et à plus petite échelle, comme je viens de le dire, on le voit avec nous-mêmes, avec nos câlins, alors qu'on cajole un peu nos idoles, vous voyez. Hein? C'est toujours la même histoire qui se répète. La parole de Dieu ne manque pas de clarté. Il nous est dit à Matthieu 7, 24, c'est Jésus lui-même qui nous dit que le sage a bâti sa maison sur... Sur quoi? Le roc. Pas sur un roc. Sur le roc. Le Christ lui-même. Il n'y en a seulement qu'un. Et ce n'est pas toujours dans la satisfaction de la chair. qu'on bâtit sur le roc, mais c'est indiscutablement d'une valeur éternelle. Si la promesse n'est pas qu'il nous donnera le royaume du monde, il nous assure une assise infiniment plus désirable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors il fait bien plus que nous donner le royaume du monde. Il nous donne une pleine suffisance de vie dans ce royaume du monde où nous ne sommes que de passage comme des pèlerins alors qu'on se dirige vers notre demeure qui est le royaume céleste éternel. Et mon troisième point, d'après le texte, le fils de David, le fils d'Abraham. Du côté de Joseph, son père, enfin, son père adoptif, on s'entend bien, humainement parlant, Jésus descend de David. L'expression « fils de David », d'ailleurs, d'entrée de scène, dans le Nouveau Testament, semble organiser l'entière généalogie. 14 générations d'Abraham à David, 14 de l'arrivée de David jusqu'à la fin de la dynastie, alors qu'Israël, on le sait, ira en exil, et 14 autres jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On fouille un peu là-dedans le mercredi, hein, avec les différentes prophéties que notre bon frère Daniel avait reçues à l'époque. L'attente d'Israël reposait sur la promesse de Dieu à David concernant un héritier, un fils qui amènerait un âge d'or. Ah, l'âge d'or. 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 15. « Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. » Belle prophétie, avec un accomplissement immédiat dans Salomon, et l'accomplissement véritable futur, sensus plenior, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Un petit amen, ça ferait du bien, merci beaucoup. Donc, dans l'évangile de Matthieu, Jésus est appelé « fils de David » à 9 reprises. Il est cet héritier longuement promis, cet espoir de restauration d'Israël, capable de détruire le pouvoir de Satan et des Romains. Mais dans un deuxième temps, le peuple attendait aussi un roi qui guérirait le pays. Jéhovah Rapha. Un roi qui guérirait le pays. Hein? Bien sûr qu'on soupirait après une transformation politique, mais on cherchait aussi une guérison individuelle. On n'a qu'à penser au nombre de gens qui venaient à Jésus pour une guérison, comme par exemple à Matthieu 9, 27, ces deux aveugles. « Aie pitié de nous, fils de qui? » Fils de David. Hein? Hein? L'attente. La promesse réalisée, si c'est lui, il va être notre guérisseur. Aie pitié de nous, fils de David. Et c'était ainsi lorsqu'il voyageait dans les régions avoisinantes. Matthieu chapitre 15, versets 21-22 nous dit, « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Hein? Alors, on voit donc à quel point ce titre, pour les gens, était évocateur, fils de David. Mais tant et aussi longtemps que les Romains demeuraient au pouvoir, c'était le gros hic, c'était l'os dans la viande, hein, pour ces gens-là dans l'attente de leur Messie. Le doute, l'incrédulité et même la colère persistaient malgré certains moments de gloire, comme on l'a vu tantôt lors de l'entrée glorieuse à Jérusalem. Le fils de David s'offre pour soutenir le faible. Est-ce que vous vous sentez toujours très fort? Ben voyons. Non? Hein? On ne se sent pas toujours très fort. Il y a des moments où vraiment on est conscient. C'est plus que se sentir. Un sentiment, c'est une chose. La réalité, ça en est une autre. Mais il y a des moments où on est vraiment conscient de notre faiblesse. Et quand je parle de faiblesse, là, je ne parle pas uniquement de faiblesse morale. Je parle de notre incapacité à gérer ce monde dans lequel nous vivons, cette incapacité à gérer les existences que Dieu nous a confiées et qu'on doit amener à bon terme, à sa gloire. Le fils de David s'offre pour soutenir le faible. C'est lorsque je suis faible que je suis fort, disait l'apôtre. C'est dans nos grands moments de faiblesse qu'on s'appuie sur Dieu, qu'on s'appuie sur le Christ, qui nous offre effectivement sa puissance. Le fils de David s'offre pour guérir le blessé. Vous avez déjà entendu l'expression « j'ai été blessé ». J'ai été blessé dans une autre église, j'ai été blessé ici, j'ai été blessé là. Nos blessures nombreuses, parce qu'on vit dans un monde où on s'interblesse. Le fils de David offre l'espoir au cœur qui soupire. Qui n'a pas ce qu'il désire, dit-on. Il est le guérisseur et c'est bien l'invitation qu'il lance à tous ceux et celles qui sont conscients de leurs besoins. Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et on sait bien dans quel contexte ce verset-là a été donné. Si vous reculez de quelques versets, là, Jésus a fait des miracles quelque part, et on dit s'il les avait fait dans une autre ville, là, elle se serait convertie, mais il ne les a pas fait là. Dieu ne doit sa révélation à personne. Maintenant, son invitation est là quand même pour tous et chacun. De venir à lui et de prendre son joug. Et le dernier titre de Jésus en Matthieu 1, c'est « Fils d'Abraham ». On dit que Matthieu, c'est l'évangile pour les Juifs, de sorte qu'il commence avec Abraham. Luc, lui, commence avec Adam, un petit peu loin. Tous les Juifs se revendiquent d'être fils d'Abraham. Matthieu s'attend à ce qu'on sache qu'Abraham était un païen. Hein? Matthieu s'attend à ce qu'on sache là. Un gentil, avant que Dieu ne l'appelle. Il adorait le soleil, il était idolâtre, comme tout le reste de l'humanité. Il est devenu le père du peuple de l'Alliance, mais il est né hors de l'Alliance et y est demeuré jusqu'à ce que Dieu l'en sorte. Et Dieu n'a pas manqué de lui faire cette glorieuse promesse de lui donner les nations. Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La généalogie de Matthieu semble patriarcale, trouvez-vous ça? Elle est patriarcale, point à la ligne, hein? Fait mention des ancêtres mâles de Jésus. Remarquez que quand la Bible parle du péché, elle en parle également d'une manière patriarcale. Il ne dit jamais à cause du péché d'Adam et Ève. Non, c'est le péché d'Adam. C'est lui le responsable dans le jardin. Mais il fait mention des mâles, des ancêtres mâles de Jésus. Puis, il ne parle pas toujours des mères. Mais comme nous l'avons vu, il y a des exceptions. Alors qu'on y retrouve Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et finalement Marie. Trois de ces femmes étaient, on l'a vu, des pécheresses notoires. Et trois d'entre elles n'étaient pas israélites. Ici donc, au début de l'Évangile, Matthieu ne manque pas de faire tomber les barrières entre les hommes et les femmes. On n'a qu'à se rappeler du statut de la femme dans l'Ancien Testament pour voir à quel point Jésus était le grand libérateur de ces femmes-là dans le Nouveau Testament. Il fait tomber les barrières entre les hommes et les femmes, alors que ces dernières sont aussi prenantes de l'arbre généalogique de Jésus. Il fait aussi tomber les barrières culturelles entre juifs et gentils. Nous retrouvons dans la même église Bathsheba, Tamar, Rahab, Marie, Abraham et David et nous-mêmes. Bien sûr, il y a des différences de position, mais pas de condition. Au niveau de la condition, il y a une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, entre les juifs et les gentils. À l'intérieur de ces gens qui sont de conditions communes, le Seigneur a donné des positions à chacun selon ce qu'il leur a donné dans l'acte créateur avec les dons pourvus. D'entrée sainte, donc, l'Évangile met l'emphase sur cet amour inclusif de Dieu. Et rien ne peut obstruer son sentier. Il n'y a personne qui n'en a pas besoin de ce salut-là. Finalement, cette généalogie, il faut bien dire, n'est pas aussi sèche qu'elle pouvait y paraître a priori. Alors, si vous êtes rendu là dans votre lecture de lundi prochain, réfléchissez-y, il y a beaucoup de richesses dedans. Alors que nous entrons dans cette période festive de Noël, c'est ici que ça commence. On parle d'un enfant né dans une crèche. On parle de bergers qui ont reçu la révélation. On parle de mages qui sont venus d'Orient. Mais bien avant eux, il y a eu toute cette pléthore de personnages que Dieu a utilisés pour que nous puissions, nous, en 2024, célébrer joyeusement la fête de Noël. Alléluia. Et pour célébrer Noël, il nous faut comme eux. Il nous faut comme elles investir toute notre foi en Jésus, dont le nom hébreu, Yehoshua, signifie Dieu sauve. Et le mot Christos, le oint, l'envoyé de Dieu, le oint pour accomplir le salut des croyants. Amen.